Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà. Bonjour. C'est bien. Alors, on revient de vacances, je suis en forme. C'est bien, tout le monde est content ?
Oui.
Eh bien, ça me fait plaisir. Alors, moi, je m'installe, parce que je voudrais quand même répondre peut-être à certaines préoccupations ou certaines questions. Si vous y avez pensé, pourquoi Alain s'assoit-il quand il prêche ? Alors, je vois vraiment pas pourquoi je le ferai pas, parce que vous l'êtes. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Non, non. C'est pour tout simplement que vous puissiez savoir pourquoi. Je voudrais toujours finir la prédication en forme. Et quand il arrive à un moment après 3h30 de prédication, non, je me trompe, quand il arrive qu'après une demi-heure, j'ai vraiment des grosses fatigues. C'est pour ça. Et pour garder ma pensée, pour faire une conclusion qui soit cohérente, alors je préfère m'asseoir, parce que finalement, je suis comme un oiseau, je ne sens plus mon corps. Voilà, et c'est pour ça. Croyez bien que c'est vrai, vous voyez que je commence à avoir des cheveux blancs. Ça, c'est un fait, mais c'est pour pouvoir donner le maximum jusqu'au bout de la prédication, parce que c'est vrai qu'en fin de matinée, souvent, je suis obligé de m'allonger. Myriam est là pour vous le dire, parce que je ne tiens plus. Donc, ça fait des années que ça dure, hein, tout ça. Alors, jusqu'ici, pendant des années où on a partagé ensemble, vous m'avez toujours vu debout. Maintenant, vous me voyez assis. J'espère que la prochaine fois, ça ne sera pas couché. Bah, priez pour moi, alors. Voilà. Bien. Alors, ceci, c'est un petit clin d'œil, hein. Un petit clin d'œil. Alors, ceci explique cela. On va ouvrir un livre qui n'est pas forcément très connu. Un livre dont nous avons fait l'étude il y a une dizaine d'années, pour ceux qui sont les plus anciens. Chapitre par chapitre et verset par verset. C'est un livre remarquable, c'est le Cantique des Cantiques. Alors on ne va pas reprendre le livre hein, aujourd'hui, hein. Je vais prendre seulement 2 versets dans le livre. C'est déjà pas mal. Et nous allons donc introduire ce passage à travers simplement ces 2 versets. D'abord au chapitre 3, Cantique des Cantiques. Vous savez où ça se trouve ? Ça se trouve après les Proverbes. Voilà. Et avant Ésaïe, ça vous va ? Je ne pourrais pas vous donner la page parce qu'il n'y a pas une seule page qui correspond dans la Bible. On a chaque fois des formats différents. Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5. Ah, ce sont des beaux textes. Et on va justement ce matin, eh bien, réjouir notre pensée, notre cœur, entretenir nos sentiments. Parce que la Bible est un livre d'amour, hein ? On est d'accord. Alors, Cantique des Cantiques, chapitre 3, verset 5, et voilà ce qu'il nous est dit. Souvent dans l'introduction de Cantique des Cantiques, Cantique de Salomon. C'est écrit comme ça, vous le verrez. Mais c'est surtout Cantique pour Salomon, et vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est deux rôles différents. Alors, je vous en conjure, fille de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Et on va donner quelques explications sur ce passage. Le deuxième texte, on va tourner 1 ou 2 pages, c'est pas très loin. C'est au chapitre 6, toujours dans le même esprit, parce qu'il n'y a que ça dans le livre des Cantiques et des Cantiques. Si vous êtes intéressé par la poésie, vous allez certainement comprendre les choses. Mon bien-aimé est descendu à son jardin, au parterre d'aromates, pour faire paître son troupeau dans les jardins et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Il fait paître son troupeau parmi les lys. Alors, dans les couples que nous sommes les uns et les autres, est-ce que nous pouvons partager ces paroles et dire à notre épouse ou à notre épouse, eh bien, tu es à moi et je suis à toi. Et il y en a plein comme ça, des citations de ce genre. Une petite introduction, c'est celle-ci, c'est que le livre des Cantiques des Cantiques est le livre, et vous le savez déjà, le plus poétique de la Bible. Vous avez des livres d'histoire, vous avez des livres qui nous parlent des animaux, vous avez des livres qui nous parlent surtout des hommes, des bons et des méchants, hein, les saints, les élus de Dieu, les chrétiens, etc. Il y a les brebis noires également, dans certaines pages, c'est-à-dire ceux qui sont opposés à Dieu, ceux qui sont opposés à la vérité. Mais c'est un livre tout à fait d'un caractère particulier. L'intitulé de notre méditation ce matin pourrait être tout simplement « Un chant d'amour et des perles de vie ». Et vous savez, j'ai entendu tout à l'heure des louanges et des manifestations pour glorifier le Seigneur. Et la chose, c'est que nous aspirons tous au bonheur et à l'amour. Nous aspirons tous à des belles choses, à des grandes choses, non seulement sur le plan spirituel, mais que ce domaine spirituel soit aussi accompagné de sentiments. Ouais, je crois que ça, c'est quand même important de le dire. Chant d'amour et perles de vie, parce que ce sont des règles. On ne récolte que ce que l'on sème. On est d'accord. Celui qui sème de l'amour récoltera de l'amour. Il aura en retour, finalement, eh bien, quelque chose qui sera toujours à faire du bien à lui-même d'abord, mais aussi aux autres. Maintenant, le contraire, je vous laisse deviner, je ne veux pas m'étendre là-dessus parce que c'est vraiment pas très intéressant. Et pourtant, c'est la nature humaine, ce pas intéressant, parce que nous sommes comme ça, et en raison du péché, naturellement, qui nous colle et qui nous enveloppe si facilement, comme dit l'Écriture. Donc, le message est d'un genre particulier. Alors, mesdames, écoutez bien, messieurs, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur. Attention, je ne vous ferai pas de mal. Il y a dans l'abord de ce livre, il est compliqué quand même, hein, parce que vous vous demandez s'il y a deux personnages ou trois personnages. Alors nous, on ne va pas prendre la forme la plus stricte et littérale, on va prendre la forme qui finalement eh bien, me semble inspirée par les théologiens qui ont étudié naturellement ce livre, c'est-à-dire la forme à trois personnages. Il y a Sunamite, ou Sulamite, comme vous voulez. Il y a le berger bien-aimé, et il y a Salomon. C'est pour ça que j'ai fait la petite nuance. Un livre écrit, non pas par Salomon, mais pour Salomon. Parce que c'était quand même excusez-moi l'expression, mais un sacré... Comment dire ? Je ne veux pas me tromper quand même. Un sacré énergumène ou individu qui plus est, était quand même un coureur de femmes. Oula ! Wow ! Ben, je voudrais vous dire qu'il avait quand même à peu près 50 femmes, je crois, princesses. Il avait des concubines, non pas par dizaines, mais par centaines. Et justement, c'est le cœur de cette situation, et je voudrais essayer de vous l'expliquer pour bien comprendre que ce problème-là, c'est comme tous les autres péchés. Il y a des péchés qui se voient moins et qui sont plus graves peut-être que celui-là. Et c'est pas une question de... Non, c'est une question d'amour. Moi, je veux pas me mettre dans la marge du côté négatif en fustigeant, en taxant et en stigmatisant. Non, je vais vous parler du véritable amour. Parce que si le véritable amour est là, il n'y a pas les autres amours. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est l'exclusion de tout le reste. Uniquement l'amour de Dieu. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont extraordinaires, parce que dans ce livre, et nous terminerons avec une conclusion extraordinaire, c'est l'histoire de l'époux et de l'épouse, de la fiancée et du fiancé. Vous vous souvenez, les premiers temps où vous avez rencontré votre épouse et mesdemoiselles de l'époque? Eh bien, quand vous avez rencontré votre berger, bien-aimé, il y a de l'émotion, hein? Eh oui, mais c'est comme ça, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. Alors après, tout le reste, ce qui peut arriver dans la vie, certains diront que ce sont des accidents, ce sont des lassitudes, ce sont l'émanation du caractère qui domine et tout ça, et ça se finit toujours assez mal, en tous les cas, souvent dédigâché. Non seulement pour les deux individus, mais pour les enfants qui sont aussi avec, qui, ceux, n'ont rien demandé. Alors, on va parler de Tsunamite d'abord. Tsunamite, c'est un personnage allégorique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est abstrait. Mais néanmoins, nous allons voir que ça correspond, dans la suite des siècles, à quelque chose de bien concret qui apparaît dans l'Évangile. Personnage qui apparaît dans l'Évangile, mais d'une manière en chair et en os, hein. La parole de Dieu a été faite chair. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Et qui cache une autre vérité d'ordre spirituel et de premier plan. D'abord, la première chose que nous pouvons dire, c'est la fidélité à l'amour de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu en premier, c'est Dieu qui nous a aimés. N'y aurait-il pas une réponse? La deuxième chose, vérité capitale, c'est la résistance aux séductions et aux tentations. Parce que vous allez voir, il y a du combat hein, dans ce que nous allons partager. Ça ne se passe pas tout confortablement, ce n'est pas la dolce vita, hein, si vous parlez italien. Et puis, nous avons aussi, en troisième plan, l'amour dans le couple. Ah oui, parce que quand on se marie, c'est par amour. Logiquement. Maintenant, il peut y avoir d'autres ingrédients. J'en pense que c'est les meilleurs. Et puis, quand il est dit par deux fois, il est parlé finalement du lys. Vous savez que le lys, pour nous, dans notre nation, c'est la fleur emblématique de la royauté. Ah oui. Et ça veut dire quelque chose. Je voudrais simplement souligner rapidement que Tsunamite, c'est une princesse. Et que les enfants de Dieu que nous sommes, et là je passe le temps et les siècles, nous sommes fils de Dieu et nous sommes princes et princesses. Ça vous convient ça? Ça va? Ne vous endormez pas surtout. Ne réveillez pas. Bon, j'arrête. Voilà. Donc il y a naturellement tout cela dit. Alors, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Tout est enveloppé, quand vous lisez ce livre, comme dans une scène et un théâtre bucolique. Tout est beau. Il est parlé de fleurs, il est parlé d'oiseaux, il est parlé de toutes sortes de choses, de la beauté de la nature que Dieu nous a donnée. Le personnage en question, nous l'avons cité tout à l'heure, qui est-elle? Alors, Tsunamite signifie paisible. Ah ouais, mais ça c'est un bon nom qui s'accorde avec l'amour, hein. Paisible. Elle devait être originaire de cette ville de Palestine qui s'appelle Sumène et qui veut dire un lieu de paix. Moi, je voudrais quand même souligner rapidement que dans le mariage, ça doit être un lieu de paix. Vous comprenez le mot? Et non pas de conflits, de querelles et de toutes sortes de choses qui sont inadmissibles pour des enfants de Dieu. Inadmissible. Vous allez me dire, je suis sévère. Mais ce n'est pas moi qui suis sévère, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Autrement, il y a un non-sens. Et tant de larmes, tant de pleurs, tant de conflits, tant de colères. Eh bien, Vienne, justement, c'est qu'on n'est pas installé à Sumène. Alors, Tsunamite, elle porte un nom extraordinaire parce qu'elle est porteuse, dans son nom même, la colombe d'amour. Et la colombe, ben, c'est celle qui va descendre avec le Saint-Esprit au moment où Jésus va descendre dans le Jourdain, hein, pour apporter au monde la paix. Alors, c'est une jeune fille de la campagne. Les filles des villes, ce serait tout autant, hein, il n'y a pas de problème, hein, on peut faire de ségrégation. Une jeune fille de la campagne, c'est une bergère. Elle a une beauté remarquable. C'est comme ça que le texte nous la présente. Et elle est amoureuse. C'est pas défendu, hein. Elle est amoureuse d'un jeune berger, son ami d'enfance, on peut le dire de cette manière, qui lui-même est issu de la terre. Ils sont des mêmes origines, en quelque sorte, comme nous sommes tous sortis de la terre, nous, les uns et les autres. C'est simplement pour faire la similitude. C'est autour de cette scène, pleine de charme, que se noue un drame, que se noue le drame rapporté par le livre des Cantiques des Cantiques, qui nous transporte jusque dans les plans, écoutez bien, et les visions de Dieu, pour préfigurer l'union de Christ présentée dans la Bible comme l'époux et son épouse qui est l'Église. Ça va, vous suivez? Ouais. Non, mais c'est vrai, parce que c'est un livre compliqué à pouvoir, comme beaucoup d'autres, comme le livre de l'Apocalypse, il faut bien mettre, et la chronologie n'est pas toujours très facile. Alors, donc, je dis bien préfigurer cette volonté de Dieu entre l'époux Christ et l'épouse l'Église. On trouve forcément, quand on dit tout ça, eh bien, nombre de qualificatifs élogieux, voire amoureux, parce que quand ils se parlent, c'est à la fois tantôt un monologue et tantôt un dialogue. Et nous voyons que tout cela décrit Tsunamite, d'abord avec des termes tout à fait particuliers, la plus belle de toutes les femmes. Ben, une épouse, ça doit être la plus belle de toutes les femmes, hein, normalement. Hein, mon épouse, n'est-ce pas? Ça lui fait plaisir. Ça se passe dans un jardin embaumé. Ouais, c'est pas seulement un jardin cultivé avec je ne sais quoi, mais il est embaumé, et toujours ce leitmotiv, parce que les temps ne sont pas encore venus, on est à la période des fiançailles, dans le contexte de ce livre, il est dit « ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille ». Ouais, il y a un temps pour tout, et celui qui doit réveiller l'amour, c'est le Seigneur, et ça vient d'en haut. Parce qu'il faut faire la différence entre être amoureux et aimer. Être amoureux, c'est véritablement un sentiment très fort, c'est formidable. Hein? C'est là où le fiancé est prêt à faire toutes les promesses, inimaginables. Et puis la fiancée, elle attend. Quelquefois, elle attend longtemps. Ça, c'est comme les responsables politiques qui vous font des promesses. Tiens, ben n'oubliez pas aujourd'hui, hein, s'il vous plaît. Hein? Et quelquefois, ben, on s'aperçoit que rien n'arrive. Alors, ça vient avec la grâce du Seigneur, et c'est le moment, parce que celui qui a fait les sentiments, celui qui a fait l'amour, ben c'est lui qui conduit qui réalise toute chose. Alors, on en est là, justement, et nous voyons que on l'a souligné, sa beauté est stipulée, et avec ce leitmotiv, donc, ne réveille pas l'amour avant que Dieu le veuille, ou qu'on le veuille, parce que souvent, dans ces moments où on est amoureux, on précipite les choses. Hein. Ça va très vite, ça va même trop vite. Et c'est surtout les hommes, hein, qui précipitent les choses. Hein. Voilà. Alors donc, on est devant tout simplement ce caractère humain, quoi qu'il en soit. Alors je voulais dire, être amoureux est une chose, aimer en est une autre. Être amoureux, c'est un sentiment qui peut passer. Mais aimer, c'est une autre dimension, c'est rester fidèle jusqu'au bout. Aimer, aimer encore et toujours. Et ça ne sera pas trop facile. Hein. Vous savez, notre petite fiancée, quand elle avait 20 ans, 25 ans, une fleur. Mais quand elle arrive à 70, 80, 90 ans, 110 ans, alors là, je peux vous dire que ça a changé. Hein. Bon. Parce que le temps des noces n'est pas encore accompli. Et c'est une histoire qui traverse la Bible, tout cela. L'union pleinement réalisée n'est pas encore à son terme, et on va le dire dans la conclusion tout à l'heure. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se rappeler. Parce que le temps viendra immanquablement avec l'apparition du Messie et du Sauveur. Le temps n'en est pas là. Le livre des Cantiques et du Cantique a été écrit à peu près 960 ans avant la venue de Jésus, au moment de l'émergence de Salomon, en quelque sorte. C'est dans la chronologie. Ça vous donne une petite idée de cela. Donc, le temps n'est pas encore venu. Et si nous revenons au drame d'un amour plein de défis, parce que c'est ce que nous allons rencontrer, tout n'est pas forcément facile dans l'amour, comme il existe dans le monde humain, parce que l'enjeu est le suivant, et retenez bien ça, cette belle fiancée innocente, pure, fidèle à son berger, doit affronter un autre personnage. Il s'agit d'un roi d'un grand pouvoir et de grande puissance qui la convoite, ou soit elle doit céder à ses avances, ou non, à ses attraits, et lui va déployer toutes sortes de séductions. Est-ce que vous ne devinez pas qui est ce personnage, sous le titre de Salomon, mais, et les luttes que nous pouvons avoir, il y a l'un, il y a l'autre, et puis il y a l'ennemi aussi. Et s'il y en a un qui veut casser l'amour, parce que c'est le nec plus ultra, c'est véritablement la chose la plus grande que Dieu n'ait jamais donnée à l'univers, c'est l'amour. Les combats, les luttes, les tentations, les attraits, les séductions, courir ici, courir là, etc. L'aventure, les gourmandises, enfin, je ne parle pas des bonbons. Eh bien, c'est tout ça. Ouais. Que va-t-elle faire, la fiancée, à ce moment-là? Que va-t-elle faire, Sulamite? C'est un roi qui lui propose, qui paraît amoureux fou d'elle, et qui lui dit, moi, je t'ouvre mes palais, je fais ceci, cela, etc. Est-ce qu'elle va résister? Et qu'est-ce qu'elle va tenir, finalement? Eh bien, là, dans cette tentation. Donc, savoir garder ses sentiments purs et se laisser aller à la convoitise qui s'offre, naturellement, avec le corollaire, en trahissant ses premiers engagements, soit devenir infidèle à son berger. Qui est notre berger? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Jésus? Ou alors, c'est celui qui fait le tour et qui parcourt le tour de la terre, derrière un nom que l'on appelle le prince de ce monde, que l'on appelle la mondanité, qui paraît anodine. Ouais, il y a bien des choses qui sont anodines, mais néanmoins, ça peut être une trahison à notre premier amour. Jésus nous a aimés le premier. Quelle façon allons-nous lui répondre? Nous allons présenter le deuxième personnage qui est intéressant, c'est le fiancé. Alors, vous allez le reconnaître sous... Parce qu'il apparaît dans le livre jamais déclaré. Il s'appelle le bien-aimé, on lui a donné le nom de fiancé. Et il paraît incognito, si discret, comme s'il se cachait à chaque fois. Sulamite le cherche, elle le voit, et au moment où elle s'approche, il disparaît. Tiens, ça nous rappelle un personnage aussi, nous, qu'on ne voit pas et en qui on croit, et qui semble se cacher. Et il se cache, et c'est une catastrophe, parce que quand on le cherche, et qu'on le cherche lorsque nous sommes dans le désarroi et l'épreuve, eh bien on aurait tellement besoin de le voir, tellement besoin qu'il nous dise « mais je suis là », mais il nous lit. Faut-il le croire? Il multiplie les promesses, mais non, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mais Seigneur, j'aimerais bien te voir. Comme je crois, il y a un des disciples, il me semble, qui s'appelle Philippe, qui dit, mais Jésus, là, il l'a devant les yeux, montre-nous le Père. Mais celui qui m'a vu le Père. Bien sûr. Et pas moins de 29 fois, Sulamite l'appelle mon bien-aimé. Ça, c'est vraiment la parole authentique de l'amour. Or, ce fiancé préfigure le Messie pour les Juifs et le Sauveur pour tous les hommes. Sous des apparences décrites dans Ésaïe 53, Et permettez-moi, puisque vous connaissez bien le texte, de le lire simplement et de vous le rappeler. Quand il est dit ceci, « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard, nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. » Voilà le serviteur de l'Éternel vu sous la plume du prophète Ésaïe 800 ans avant que Jésus arrive. Celui dont je parlais tout à l'heure qui se cache, celui qui finalement échappe au regard, à l'attention. Il n'est pas un roi, il est un simple serviteur, un simple homme de Galilée. Tout simplement, et on n'y fait pas attention. Alors, celui-ci, personnage effacé, cet amoureux de l'humanité perdue venu sauver cette humanité auprès de sa vie. Comprenez pourquoi. Il vient, il fait des choses extraordinaires dans l'Évangile, c'est mis en chronique. Et puis, quelque part, celui qui ont tant imploré Dieu pour que leur Messie apparaisse, eh bien, quand il apparaît, ils le tuent. Ils le font disparaître. C'est bien Jésus. Oui, oui. C'est bien Jésus qui met en lumière le véritable amour, notamment l'amour conjugal. Et j'y reviens. Parce qu'il y a des amours dans le monde. Hein. L'amour des choses. Il y a des passions. Il y a toutes sortes d'addictions. Il y a toutes sortes d'étoiles qui scintillent pour nous appeler à tourner avec elles dans leur orbite. Et quand on est sorti de celui de l'orbite où Dieu nous a placés, on ne sait pas où on va. Hein. On est perdu dans l'univers, on est perdu dans ce monde, hein. Quoi qu'il en soit. Hein. Alors naturellement, c'est l'amour conjugal que Jésus nous enseigne à travers ses évangiles. Et il nous parle dans ces paroles de l'Évangile, les paroles évangéliques, il nous parle de l'exigence de la fidélité. Rien ne peut aboutir s'il n'y a pas de fidélité. Rien ne peut se faire, même dans les affaires, dans le monde, commercialement, scolairement parlant, et tout ce que vous voudrez multiplier, s'il n'y a pas de fidélité. Paul l'apôtre dira ceci, « Je fais une chose. » Eh oui. Ben, on comprend qu'il a réussi. Hein. Il a réussi ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et je crois qu'au lieu de papillonner ou de butiner de droite et de gauche, ce que l'Église est tentée de plus en plus dans notre monde aujourd'hui, eh bien, finalement, de rester fidèle. Garde ce que tu as entendu dès le commencement. Je crois que c'est l'apôtre Jean qui ne cesse de nous le répéter, ça. Et puis, il y a ce fameux chapitre, alors c'est là où on tirera la conclusion tout à l'heure, le fameux chapitre de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5. Qu'est-ce qu'il dit ce chapitre? De quoi parle-t-il? Il parle du couple. Ouais. De l'homme et de la femme unis. En comparaison, mais je ne vous en dis pas plus, Jésus-Christ l'époux et l'Église l'épouse. C'est un des plus beaux textes de la Bible pour nous montrer que quelquefois nous faisons bonne mesure ou piètre mesure avec ce que Jésus nous enseigne. Et tout ça, la racine, c'est dans le livre des Cantiques des Cantiques. Hein, pour nous montrer le summum de l'amour. Cependant, c'est encore plus évident. Et là, je vais peut-être vous apprendre une chose, mais je ne le fais pas sous ma propre autorité, je le fais sous l'autorité des traducteurs de la Bible et des théologiens qui, quelque part, eh bien, sont exercés dans l'exégèse. Enfin, c'est l'étude complète de la Bible, profonde de la Bible. Il y a quelque chose de plus évident que nous livre le livre des Cantiques des Cantiques au chapitre 8 et au verset 8. Et nous pouvons simplement regarder ce passage. Il est simplement rappelé 8:8. Alors, que je retrouve, voilà. Vous allez être surpris. Nous avons une petite sœur Alors, passez-moi, hein, j'espère que vous n'êtes pas prude au point que vous allez, parce que c'est la Bible qui le dit, qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Et je vais vous expliquer pourquoi. Si nous bâtissons un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Et elle répond, je suis un mur, et mes seins sont encore comme des tours. J'ai été à ses yeux comme celle qui trouve la paix. Tiens, le mot paix revient. Mais je voudrais m'arrêter simplement sur la trois mots. Nous avons une petite sœur. Pour l'instant, nous sommes cantonnés dans l'Ancien Testament, dans le livre des Cantiques des Cantiques. Cette petite sœur, qui est-elle? Petite sœur de Sulamite. Alors, on va l'expliquer brièvement. Cet autre personnage, Sulamite, c'est la fiancée et c'est l'épouse d'Israël. On peut le dire comme ça, si vous voulez, pour simplifier les choses. Et cette petite sœur, écoutez bien, c'est la préfiguration de l'Église qui va venir au moment de la Pentecôte. Je ne parle pas de mon autorité, je parle de gens qui sont autorisés et qui se recoupent. Hein. Ouais. Ils y voient, ces théologiens y voient, dans le prolongement de l'histoire, eh bien, la petite sœur, c'est l'Église. Parce que, n'allez pas vous méprendre, Israël, c'est Israël, et l'Église, c'est l'Église. Israël n'est pas devenu l'Église, et ni l'Église n'est devenue Israël. Attention, on ne mélange pas les genres. Hein. Israël, c'est la loi, et l'Église, c'est la grâce. Bravo! Moi, je suis content d'entendre ça, parce qu'on entend souvent le contraire. Mes frères et sœurs, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes sous la grâce. Et il faut croire au pardon de Dieu, avec naturellement tout ce qui va avec. Si on pêche, il faut se repentir. Ouais, là, il n'y a pas d'acclamation. Enfin, bon, vous avez compris, c'est le principal. Alors, naturellement, préfiguration de l'Église, or, ces deux-là, Israël et l'Église, je dois le dire avec, c'est vrai, hein, beaucoup de regrets, mais n'ont pas toujours été fidèles à Dieu. Oh, loin s'en faut. Quand on voit tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament et tout ce qui se passe depuis les temps apostoliques jusqu'à maintenant, on ne peut pas dire que l'une et l'autre ont été véritablement des modèles. Il y a toujours eu les saints. Façon de parler, hein, pas la façon catholique. Il y a toujours eu des hommes pieux. Il y a toujours eu des hommes remarquables, des hommes et des femmes remarquables qui ont donné leur vie, qui sont de tout cœur avec le Seigneur et qui sont restés fidèles. Mais alors je peux vous dire qu'il y a aussi, on pourrait parler de Israël apostat et l'Église apostate. Et aujourd'hui, si les gens ont un sourire en disant « ne me parlez pas de Dieu », c'est pas par rapport à ceux qui ont été fidèles qu'ils disent ça. C'est par rapport à tout ce qui s'est passé et finalement qui a dénaturé le christianisme. C'est bien ça le problème. Alors, il y a eu d'un côté le rejet du Messie, on en a parlé tout à l'heure, pour l'une, et la crucifixion du Sauveur pour l'autre. Et Jésus va déjà, dans une forme de prophétie, prophétiquement, il parlera justement de ces rejets de cet Israël, et puis également de l'Église. Il parlera sous la forme d'une belle petite parabole que l'on appelle les Vierges folles et les Vierges sages. Et il ajoutera encore une autre parabole, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, il parlera des vignerons, maîtres de la vigne, en Israël, meurtriers. Tout ça, c'est parabolique, naturellement. Hein. Pour l'Église, c'est maintenant l'époux divin qui se fait attendre depuis 2000 ans et des poussières, c'est ce qu'on appelle finalement l'eschatologie, le retour de Jésus-Christ. Ça fait 2000 ans qu'on attend. Ce berger d'amour, ce bien-aimé, on l'attend depuis 2000 ans. Il y a cette parole d'espérance, d'espoir dans les cœurs des chrétiens. Et on dit, Seigneur, reviens bientôt, surtout quand on voit ce qui se passe. Et là, on est averti. Hein. Normalement, on devrait se réveiller. Ça, c'est clair. Hein. parce qu'il y a avec le retour de Jésus ce qui correspond encore avec notre affaire du livre des Cantiques des Cantiques, la gloire des noces de l'agneau. Vous avez déjà été aux noces ? Non, personne. Bon, on vous montrera ce que c'est. Mais toujours est-il que les noces de l'agneau, ça va être quelque chose de glorieux, mes frères et sœurs. Et si on doit se réjouir, si on doit vivre, on doit vivre pour le retour de Jésus et ses noces de l'agneau, qu'est-ce que ça va être de l'autre côté, hein ? Ça va être quelque chose de glorieux. Parce que ça fait 2000 ans que ça attend. Hein. Et des fiançailles de 2000 ans, c'est pas mal. Hein. Le mari a le temps d'avoir de la barbe. Comme ça. Les noces de l'agneau. Bon. Sulamite, ouvre maintenant, je vais un peu plus loin, ouvre maintenant une nouvelle porte qui anticipe et développe l'histoire du peuple d'Israël et l'attente de son Messie, lequel peuple d'Israël, hélas, s'est souvent laissé séduire par la mondanité, par le luxe, par une royauté extraordinaire, je parle d'Israël, hein, extravagante, de ses monarques et l'idolâtrie. Et on peut pas dire on peut dire la même chose en ce qui concerne l'Église, hein, et qui ont trahi leur engagement en devenant adultères spirituels. Ça vous va ? Non. Non, non, mais c'est pourtant la vérité. Parce que les mots que je suis en train d'employer, c'est les mots des prophètes de l'Ancien Testament, et c'est les mots aussi des apôtres quand ils sont en train de dire, ben écoutez, marchez pas n'importe où. Hein. N'allez pas sur n'importe quel parterre, hein, parce que vous savez, c'est des fondrières, hein, pour le bonheur de l'homme et pour également le bonheur des sociétés dans laquelle, et de la civilisation dans laquelle on vit. C'est pour ça que ça s'effondre un peu de tous les côtés. Hein. Les gens veulent être heureux, ils aspirent au loisir, au plaisir, etc. Mais, excusez-moi, hein, mais on entend cette expression « malheureux comme la pierre ». Je ne sais pas si une pierre est malheureuse, mais toujours est-il que ça veut dire ce que ça veut dire, hein, terrible. Et les gens se posent des questions. Pourquoi ? Eh ben voilà, exactement. Hein, que c'est une histoire d'amour, tout ça. Et Dieu avait prévenu déjà depuis de longues dates. Il avait dit à Israël, et ça vaut aussi pour nous, « Vous ne serez pas comme les autres nations qui vous entourent. Vous ne leur ressemblerez pas et vous ne les imiterez pas. » Et on s'aperçoit qu'on a fait exactement le contraire de ce que Dieu nous avait prévenu et nous a mis en garde. Et ça, c'est à travers les temps d'Israël et c'est à travers également les temps de l'Église, naturellement. C'est l'histoire de toujours du peuple élu, puis... toujours en alternance, existence difficile dans ces relations entre l'homme et Dieu, suivie d'un divorce. Et dans le meilleur des cas, réconciliation, parce que c'est la grâce et le pardon, et dans le pire des cas, c'est le jugement. C'est pas que Dieu veut juger, mais il veut que nous soyons intelligents. Il veut que nous soyons de cette intelligence qui n'est pas seulement des faits de calcul et de combinaison de ceci, de cela. Il veut que nous ayons cette intelligence du cœur inspirée par le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit, c'est lui qui véritablement est le cœur même de l'amour. Il a mis dans nos cœurs le Saint-Esprit. Si nous parlons aujourd'hui, le Cantique des Cantiques peut s'appeler le Cantique de l'Église. J'y trouve véritablement une bonne appropriation. Cantique de l'Église et le séducteur dont il s'agit, parce qu'on n'a pas parlé de lui, hein, Salomon, dont je vous ai dit quelques mots tout à l'heure, est le type même de l'image du monde. Engouement pour la richesse, mammon. On le voit déjà dans ce qui normalement a été construit pour honorer Dieu, les basiliques, les cathédrales, etc., et tout cet art, toute cette architecture, etc., etc. Ouais. Mais vous savez, c'est terrible parce que l'esprit s'envole, l'esprit s'en va, mais les bâtiments restent. Et souvent, ils sont en ruine. Enfin, spirituels, en tous les cas. J'espère que je ne vais pas me faire assassiner. Le pouvoir de la puissance. Ouais, Israël, qu'est-ce que tu as été faire ? Église d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais ? Quelles sont tes transactions ? Quelles sont tes alliances ? Quelles sont tes allégeances ? Relisez le livre de l'Apocalypse, et il est question de la grande prostituée. Caprice de l'ego, moi, 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 et seulement moi. C'est terrible ça, hein ? Fascination de la gloire humaine. Les sciences, prétendue sagesse, qui détourne du véritable amour pour le compromettre et le souiller, le vicier. Ah oui, les hommes sont intelligents, et ça, c'est quand même Dieu qui a donné l'intelligence. Alors il y a une intelligence remarquable et utile aux hommes, mais il y a une sous-intelligence et une science de sous-produit, on pourrait dire ça comme ça. Ouais, qui est là fait pour la destruction. On le voit autour de nous. Si nous avons une pensée pour savoir ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, ben regardons de quoi l'homme est capable. Il n'a rien compris de tout ce qui s'est passé pendant des siècles et des siècles à travers le sang et les guerres. Et ça détourne naturellement du véritable amour, parce que c'est plus d'amour, c'est de la haine, pour corrompre. Et ça, c'était le siècle factice, comme on a eu le grand siècle de Louis XIV, là c'était le grand siècle de Salomon. Mais tout ça c'était du vent. C'était du vent. Salomon veut à tout prix séduire Sulamite, comme l'esprit du monde veut séduire et corrompre l'Église, qui elle se doit de lutter, de garder intacte sa foi, sa pureté, son amour de Dieu et pour Dieu. Tout simplement. La conclusion serait la suivante. Choix entre deux amours. Vous connaissez ce passage ? On ne peut servir deux maîtres à la fois. Où est ton cœur ? Ici, là ? Oh, Seigneur, je te donne un petit peu à toi et puis un petit peu de l'autre côté. On partage, c'est normal. Oui, mais attention, hein. C'est que peut-être nos dispositions peuvent être bonnes dans le raisonnement. Mais il y en a un qui va, lui, passer par-dessus et puis il va dire « Tout pour moi, tu viens avec moi, pas de problème ». Ouais. On ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit il aimera l'un, eh oui, ou alors il va haïr l'autre, forcément. Alors, si je fais une conclusion générale, je dirais Israël. Israël, quelle voix as-tu écoutée ? Ça a été les pleurs de Dieu au travers le prophète Osée. Parce que c'est une histoire de couple, là aussi. Hein. Osée et sa femme. On l'épouse. Relisez le livre, vous verrez. C'est un petit peu le pendant de Cantique des Cantiques. Hein. Sulamite, quel choix as-tu fait, Sulamite ? Eh bien, moi, je voudrais vous dire que Sulamite, dans le livre, eh bien, elle était fidèle à Dieu, à son berger bien-aimé. Et elle n'a pas bougé, malgré tous les artifices de Salomon. Et puis, toi, l'épouse. Toi, l'Église, qu'as-tu décidé de suivre ? Et ça vaut pour l'Église d'aujourd'hui, hein, l'Église de Saint-Nazaire et puis toutes les autres. Hein. Qu'as-tu écouté ? Quel choix as-tu fait ? Est-ce que c'est ton berger ? Est-ce que c'est ton époux qui est amoureux de toi ? Parce que Dieu nous aime. Il nous aime à la folie, si je peux dire. Mais Dieu n'est pas fou. Hein ? Ou alors c'est Salomon, c'est le monde. Et je vous ai dit qu'on tirait la conclusion de Éphésiens chapitre 5. Alors je vais vous lire le texte, vous en penserez ce que vous voudrez. Moi je ne suis pas responsable, pas moi qui l'ai écrit d'abord. Parce qu'il y a un mot qui va peut-être vous choquer, mais je vais le dire quand même. Femme, que chacune soit... Oh là 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 là, je le dis, soumise. Et ça vous fait rire. Soumise à son mari comme au Seigneur. Car, ben c'est bien, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, alors là, messieurs, écoutez bien. Marie, que chacun aime sa femme. Et vous comprendrez que quand on met les deux mots ensemble, il y en a, ça ne va pas l'un sans l'autre. Et on comprend, quelquefois, il y a des divorces, qu'il y a des mésententes, qu'il y a des querelles à vie. Vous allez voir. Aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit, il prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, et j'insiste là-dessus. Ce mystère est grand. Et là, maintenant, c'est plus un mystère. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Si on n'aime pas sa femme, alors à Salma, on ne peut pas s'aimer soi-même et on donne le témoignage qu'on ne s'aime pas soi-même. Il y a des gens qui disent « je ne m'aime pas ». Ah oui, bon. Mais c'est dramatique ça. C'est dramatique. Brièvement, on remarquera le mot « soumission ». Je n'insisterai pas sur le fait, sinon que de toute façon, s'il est séparé de l'amour, s'il est séparé du mot « aimer », ça ne sert à rien. C'est pour ça que ça fait tant de bazar. Toujours dans l'amour, sentant de ne pas faire subir nos humeurs. Marie, fais pas subir tes humeurs, t'es fatigué, t'as travaillé. Bon, d'accord, on le sait. Et que rien ne soit un sujet d'explosion à chaque fois. Ça, c'est aussi une réalité. Donc, nous voyons de faire subir vos humeurs, nos caractères et nos frustrations. Vous croyez pas que les épouses ont d'autres soucis aussi ? Eh oui, parce que c'est un corps, de toute manière. Et vous remarquerez qu'il y a 5 fois est nommé « Marie, aimez vos femmes » et par 5 fois le mot « comme ». Et cela est répété car la référence cardinale, c'est l'exemple de Christ, comme Christ a aimé l'Église. La soumission de la femme, parce qu'elle se sent aimée, parce qu'elle est aimée, parce qu'elle reste toujours la première, comme au premier jour. Eh bien, c'est le respect, c'est la réciprocité de l'homme, et non pas des violences verbales ou physiques. C'est dans l'air du temps aujourd'hui. À quelquefois, ça finit en prison. C'est pas normal. L'humiliation. Comme Christ, qui prend soin, on l'a lu, qui s'est livré pour nous, qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui fait apparaître une jeunesse. Il est dit, une église qui n'a pas vieilli, une église qui n'a pas passé, eh bien, c'est la même chose pour une épouse. Oui, oui. Vous savez qu'il y a des femmes d'âge qui sont aussi belles que quand elles étaient jeunes filles, mais peut-être pas de la même beauté, pas de la même façon. Comme Paul le dit, une beauté intérieure. Autant le corps se désagrège, se dépérit, autant la beauté de l'intérieur se sent. Par la douceur, par toutes sortes de choses. C'est une autre beauté, tout cela. Afin qu'elle devienne irréprochable, c'est le travail. Alors il la nourrit. Il la nourrit par sa parole. Qu'est-ce que nous avons fait ce matin ? On a pris la parole. Et j'espère que vous n'allez pas avoir une indigestion. Ah oui, ça, moi je serais fâché. Alors, Tsunamite, la colombe d'amour. Moi j'aime bien ces mots-là. Ah, ça dépend des tempéraments des gens, ça c'est sûr. Mais, colombe de paix, Jésus nous le dit en un mot. Soyez simples comme des colombes. Soyez simples à l'image de Tsunamite. Alors, j'avais à cœur depuis un petit bout de temps de traiter ce sujet. parce que je pense que l'Église aussi a besoin de savoir quelles sont ses origines et quel est son devenir. Eh bien, ça ne sera jamais en dehors de l'amour que Dieu répand dans nos cœurs, et particulièrement son intérêt, c'est le couple humain, le couple chrétien. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons, Père éternel, que l'histoire a commencé au jardin d'Éden. C'est vrai. Et qu'à travers, Père éternel, ce premier trébuchement, ça suivit l'humanité. Mais tu n'as pas voulu laisser le monde dans l'ornière. Tu as donné un sauveur. Tu as donné le bien-aimé. Tu as donné celui qui est appelé parole de vie. Et nous voulons te remercier parce que ce n'est certainement pas le fait du hasard que tu as introduit dans cette bibliothèque qui est la Bible, ce beau message d'amour qui est le cantique des cantiques. Et nous te remercions et nous te bénissons parce que nous voyons en effet, Père éternel, les déclinaisons différentes entre Sulamite, entre le berger bien-aimé, entre le grand tentateur sous l'image de Salomon, la petite sœur qui est l'Église, qui est là aujourd'hui, qui fait partie en effet de ce drame, de ce théâtre. Mais nous savons, Seigneur, que tu nous appelles véritablement à être remplis du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il est le seul, au nom de Jésus-Christ, inspiré par Jésus-Christ et son exemple, véritablement, à faire de nous des hommes et des femmes heureux et de pouvoir apporter ce bonheur autour de nous par l'amour que nous manifestons, le témoignage d'amour que nous manifestons, que nous nous manifestons déjà au sein de la famille. Merci Seigneur.